Très bien. Il y a un Canadien reconnu coupable d'avoir planifié des attentats terroristes à New York qui a été condamné à 40 ans de détention. Il a 20 ans, 40 ans de prison. Fabrice de Pierrebourg est avec nous. Alors, Fabrice, qui est ce personnage et qu'est-ce qu'il a fait?
Abdulrahman El-Banassawi, Paul, avait été arrêté en mai 2016 par le FBI, qui enquêtait avec la GRC, d'ailleurs, sur cette affaire, alors qu'il était en voyage dans le New Jersey avec ses parents. Il n'avait que 18 ans à l'époque des faits. Donc, effectivement, il a été condamné à 40 ans de prison. La poursuite réclamait la prison à vie. Il habitait Mississauga et avait épousé l'idéologie de l'État islamique dès l'âge de 17 ans et ne manquait pas, je dirais, d'ambition criminelle. Il planifiait une série d'attaques à l'explosif à Times Square et dans le métro de New York, mais aussi de tirer sur des spectateurs dans des salles de spectacle pendant le mois du Ramadan au début de l'été 2016. Il voulait, disait-il, dans les communications qui ont été interceptées, créer, je cite, un nouveau 11 septembre à New York. Et il disait même, on va entrer avec nos armes à la main, c'est comme ça que les types de Paris ont fait. Il avait été piégé par un agent double du FBI, qui personnifiait un supporter de l'État islamique, avec qui il correspondait via une messagerie cryptée, et à qui il avait déjà envoyé 18 kilos de peroxyde d'hydrogène, ça c'est une substance chimique, qui entre dans la composition d'une bombe artisanale au TATP. Il avait aussi trouvé un local pas loin de New York qui devait servir comme atelier de fabrication des bombes. Il y a eu deux complices, Paul, qui ont été arrêtés au Pakistan et aux Philippines par la suite. L'un des deux, le Pakistanais de 19 ans, affirmait lui être en contact avec la branche locale de l'État islamique. Il devait participer à l'opération. Le Philippin, lui, qui avait échoué à partir faire le djihad en Syrie, servait de financier et il avait dit « on doit faire un océan de leur sang » en parlant des futures victimes à New York. C'est pas la première fois que Times Square est ciblé par des terroristes. Il y avait eu un complot à la voiture piégée qui avait été démantelé en 2010. Ça avait été revendiqué par les talibans. Et en 2017, il y avait un homme qui avait voulu se faire exploser dans le métro tout proche.
Alors, ça veut dire qu'on fait pas que les observer, que les écouter, que les espionner. On intervient avec un agent double pour les coincer.
Voilà, ça a été le cas, effectivement, là, c'est ce qu'a fait le FBI, et ça soulève toujours les mêmes questions, Paul, dans le cas d'infiltration, effectivement, par ces agents doubles. Dans le cas du jeune Canadien, on se demande s'il n'avait pas été seul, même s'il n'avait pas été seul dans ce complot, jusqu'où serait-il allé, sachant qu'il avait à peine 18 ans au moment des faits. Est-ce que c'est pas, sous-entendu, est-ce que c'est pas parfois ces agents doubles qui les poussent un peu dans le dos? C'est ce que son avocat et sa famille ont quasiment sous-entendu, ils ont déploré d'ailleurs cette sentence. Ils ont expliqué que ce jeune Canadien souffrait de troubles mentaux pour lesquels il avait été soigné. Il était bipolaire, en plus d'être toxicomane. Ça l'avait rendu d'abord vulnérable, influençable, perméable, même, je dirais, au discours de l'État islamique, et ensuite probablement contribué à se laisser un peu influencer par le FBI. On a eu un exemple similaire ici avec le Montréalais Chia Bessé-Gaillère, un doctorant d'ailleurs de l'INRS qui voulait faire dérailler un train de Via Rail. Les services de lutte antiterroriste canadiens avaient réussi à infiltrer auprès de lui un agent double du FBI, toujours donc, et lui, dans ce cas-ci, il jouait le rôle d'un homme d'affaires anti-occidental qui finançait Al-Qaïda. Cet homme-là avait enregistré toutes leurs conversations, y compris lors de son séjour au Québec. Il a même écrit un livre d'ailleurs là-dessus. Il faut savoir qu'en 2004, il y a un agent du FBI qui a démissionné, Mike German, et après il a dénoncé ses pratiques, il les considérait comme abusives. Il disait que finalement que depuis le 11 septembre 2001, c'était toujours le résultat qui importait, peu importe finalement que la fin justifiait les moyens. Dans le cas des opérations Mr. B, qui sont à peu près similaires ici, qui sont des tactiques utilisées pour faire avouer un crime à un suspect, on l'a utilisé dans le cas d'Ismaël Habib, qui a été condamné pour avoir voulu aller en Syrie. Elles ont été sévèrement encadrées depuis une décision de la Cour suprême en 2004 pour éviter justement des pressions indues qui soulèveraient plus tard des doutes en cours sur la véracité des aveux et donc la validité de la preuve.
Merci beaucoup, Fabrice. En terminant...